Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère dans l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum sur le 88.4. Nous sommes en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion de 9h à 10h ainsi que en podcast sur radiogalère.fr et sur Deezer et Spotify si vous cherchez La Forêt des Possibles ou Ecoforum sur Radio Galère. Cette émission de La Forêt des Possibles est une émission qui vous invite, auditeurs et auditrices, à trouver votre juste place dans une société écologique et solidaire et qui retisse des échelles d'action, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser des questions dans vos vies sur la société dans laquelle vous vivez et vous dire que peut-être que ces questions sont trop vastes pour que vous puissiez apporter des réponses. Et pourtant, nous essayons de montrer que non, il est tout à fait possible de pouvoir trouver sa place et de pouvoir agir à son échelle. Et donc, quelles sont les questions que vous vous posez? Comment est-ce que ces questions ensuite créent des projets? Et comment est-ce que ces projets ensuite eux-mêmes se maillent les uns avec les autres pour qu'ils puissent transformer la société pour pouvoir continuer à vivre dans un monde périn demain? Cette émission est une émission donc qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques, le plus souvent à Marseille. Mais ce soir, je vais laisser la parole à Claire parce que notre invité est au-delà des limites de cette ville, puisque les limites de notre invité et de son projet touchent la France entière. Claire, je te laisse la parole.
Bonsoir, merci Marin pour l'introduction. Et alors ce soir, on va parler politique au sens noble du terme, comme Marin aime dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'élections, on ne va pas parler de parti politique, on ne va pas parler de but électoral, mais on va parler de pouvoir au sein de nos sociétés qui sont organisées autour du concept de démocratie. Donc la démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir, donc la souveraineté du peuple face... Enfin, un gouvernement qui est régi par le peuple. On observe qu'il y aurait... Donc ce serait 2 Français sur 3 qui considèrent aujourd'hui que la démocratie fonctionne mal. Et il y a une perte de confiance dans les institutions, l'abstention record à chaque élection. On observe aussi la polarisation avec la montée des extrêmes. Et toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, la démocratie est mise à mal, en péril. Et on peut aussi dire que c'est la raison pour laquelle on reste dans l'inaction climatique et que les inégalités sociales augmentent. Heureusement qu'il y a des structures qui travaillent à chercher des solutions, telles que Démocratie ouverte et Tous élus, qui travaillent donc sur le renouveau démocratique. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Audrey Fortassin, qui travaille pour ces 2 structures, qui sont Démocratie ouverte et Tous élus. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Alors est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, te présenter toi aussi, et aussi quelle est ta relation avec ces structures?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être à votre micro à tous les deux. Moi, j'ai 33 ans. J'ai un parcours assez classique. J'ai été à l'université, j'ai étudié l'économie-gestion et puis je me suis ensuite destinée à une carrière de commerciale. Donc, j'ai été travailler dans la vente. Très vite, je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu de sens et je me suis octroyé une petite pause qui m'a permis de travailler sur des projets associatifs beaucoup plus connectés aussi à mes valeurs et à ce que j'avais envie de faire. J'ai aussi eu la chance de pouvoir partir un petit peu voyager et de rencontrer ma conscience écologique à ce moment-là. Je crois que c'est souvent le cas. Le voyage ouvre des perspectives et puis nous permet aussi de prendre un peu de recul, probablement par rapport à nos situations personnelles. Et en revenant de ça, c'était autour de 2015, je rencontre d'abord cette conscience écologique et je comprends du coup que j'ai envie de m'investir là-dedans. Et donc je rencontre une association qui m'a accompagnée et que j'ai un peu accompagnée aussi pendant quelques années, les Éco-Charlie, qui travaillait sur le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire en essayant de régler une problématique d'aide alimentaire. Donc on mettait en fait ensemble un besoin et des personnes dans le besoin, en fait, tout simplement, avec un modèle hyper innovant et qui, je trouve, en fait, fait le lien un peu avec la suite de mon histoire, le fait d'intégrer dans l'action les personnes qui sont bénéficiaires. Donc, en fait, les bénéficiaires étaient bénévoles. Et donc là, ça touche au sujet qui ensuite m'ont traversé, l'engagement citoyen, comment est-ce qu'on met en action, comment est-ce qu'on se reconnecte aussi avec son propre pouvoir. interne, voilà, personnelle. Et donc après ça, moi j'ai traversé d'autres mouvements citoyens qui se sont montés entre 2015 et 2017 et qui m'ont permis du coup de me reconnecter un petit peu au sujet de la politique. Ce qui m'amène à Tous élus et démocratie ouverte en 2020, post du coup Covid. Je rencontre un peu une frustration de mes engagements, en fait, de ces 10 années passées sur le terrain, au local, de me rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne bougeaient pas, de tous les problèmes sociaux où on dépensait beaucoup d'énergie sur le terrain. Et je pense que le burn-out militant n'est pas du tout une légende. Et de me dire, en fait, il faut aller à un niveau supérieur, en fait, il faut aller au niveau politique, là où les décisions se prennent, avec une vraie conscience, du coup, qu'il y avait une question de pouvoir, quoi, quelque part, qui n'était pas au bon endroit. Et donc, envie d'aller en politique, de me dire, tiens, si j'allais rejoindre un parti politique.
Et si je me lançais, moi
si
aussi.
Pourquoi
pas toi?
C'était pas encore pourquoi pas toi, pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai que ça m'a pas... on va dire que ça ne m'a pas conquise, la première approche que j'ai eue avec les partis politiques. Peut-être que ça ne répondait pas à mon besoin à ce moment-là, mais j'ai la chance, du coup, à ce moment-là, de rencontrer Tous élus. Et donc, peut-être que je l'introduis un petit peu pour les auditeurs à ce moment-là.
Eh bien, on est curieux et curieuse d'en savoir plus sur Tous élus, effectivement. Ouais.
Donc, j'arrive sur le site et là, je vois une association qui forme des citoyens pour faire de la politique, pour reprendre pouvoir politique, pour devenir acteur en fait et actrice quoi du changement. Et je me dis bah pile poil ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai envie qu'on transforme un peu les choses, avec un gros sujet de représentation du coup en politique, de dire bah il manque aujourd'hui de la diversité dans les instances. La démocratie doit aussi se partager et permettre au plus grand nombre d'être acteurs et de participer, de s'engager. Et donc Tous élus, c'est une association qui a 5 ans, qui est née en 2017, dans un constat d'abstention et de désengagement en fait, politique de la jeunesse, et donc qui a pour objectif de reconnecter les citoyens et les citoyennes avec la politique et les accompagner à s'engager.
Est-ce que justement, tu peux vraiment continuer à poser ce constat, parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de défiler toute notre présentation de ce soir, de savoir de quoi on parle. Donc là, tu as commencé, donc de pouvoir donner quelques chiffres, quelques ordres de grandeur, quelques ressentis qui peuvent exister à travers la population sur des questions de démocratie. Et est-ce que c'est plus spécifique en fonction de certaines classes d'âge également, qui permettront ensuite d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des outils qui sont développés à ces sujets-là?
Oui, carrément. Merci pour la question. Je vais faire le choix de ne pas donner trop de chiffres pour ne pas assommer les auditeurs. Il est tard, 19h. Mais ces chiffres peuvent être trouvés assez facilement. Mais par contre, effectivement, poser le constat, on a une jeunesse qui est en fait politisée, engagée, mais pas dans les lieux d'engagement de politique classique. Donc très très peu de jeunes s'engagent dans des partis politiques. On a des taux d'abstention massifs, quasiment 9 jeunes sur 10. Quand je parle d'un jeune là et que je donne le 9 sur 10, c'est entre 18 et 24 ans qui n'ont pas voté pour les législatives. Ouais. Sur la France, donc c'est un chiffre France général. Donc des taux d'abstention, 50 ans en fait, d'abstention quoi, qui ne fait que s'accentuer, et une perte aussi de confiance, une perte d'envie de se connecter à ça, l'impression que en fait ça sert à rien de s'engager.
Et puis aussi cette impression de ne pas être représenté, peu importe le parti, peu importe les hommes et femmes qui incarnent ces orientations politiques, on ne se sent pas représenté par toutes ces instances.
Ouais, carrément, c'est ça. Il y a vraiment la défiance et le problème de représentation qui vient du fait que, à la fois, il y a effectivement, dans les faits, dans les instances, pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, que les femmes sont peu représentées, même si on n'est pas non plus à moins de c'est 40% en fait, 40% de femmes à l'Assemblée nationale.
Chiffre qui stagne d'ailleurs.
Qui stagne, ouais. Voilà. Alors la moyenne d'âge, ça va un petit peu mieux depuis 2017 avec la vague de Monsieur Macron, mais ça, on va dire que en termes de diversité, par exemple, de catégories socio-professionnelles, on est loin, loin, loin du compte de pouvoir représenter les différentes catégories de population française. Et qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose un problème de... Alors, c'est pas nécessaire d'être du milieu rural pour représenter le milieu rural. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas fâcher les élus qui pourraient nous écouter. Mais il y a quand même une petite déconnexion. parfois des problématiques du terrain, et aussi parce que l'appareil politique français est tellement dense et tellement immense, des difficultés aussi de dialoguer avec les acteurs, voilà, parfois, qui occasionnent ces dysfonctionnements.
Ok. Et donc, alors, qu'est-ce que proposent tous élus en termes d'outils pour se réapproprier la politique, ou bien peut-être aussi que tu peux nous parler du concept de démocratie participative? En quoi la démocratie participative est différente de la démocratie classique, si je puis dire?
Oui, je précise simplement que donc je suis entrée en tant que bénévole, je suis membre donc de tous élus, mais j'ai été déléguée générale de l'association. Je ne suis plus déléguée générale, donc je ne m'exprime pas à ce titre-là maintenant. Donc tous élus, ce qu'elle propose très rapidement, parce que j'en ai un petit peu parlé, c'est à la fois des outils de sensibilisation, donc des jeux, parce que par le jeu, en fait, on apprend, on vit une expérience démocratique, et donc ça permet aussi de dédramatiser un peu le sujet, quelque part, parce qu'en fait, c'est un peu un gros mot quand même, la politique, dans plein de secteurs, dans plein de milieu, et on comprend pourquoi, et développe du coup des formations d'accès au mandat politique pour amener de la diversité en politique, donc des formations à partisanes gratuites qui permettent à celles et ceux qui ont déjà passé un petit niveau peut-être d'engagement, ou en tout cas qui ont des convictions et qui ne savent pas comment y aller, quoi, peut-être d'essayer de réduire un petit peu la marche qu'il y a pour accéder à ces espaces de pouvoir politique tels qu'ils sont aujourd'hui designés. Et donc, pour...
Les formations gratuites dont tu viens de parler, elles sont disponibles à n'importe qui? On peut se rendre sur le site de tous élus et en bénéficier facilement?
On a fait des sessions de formation pour les municipales, les régionales, les législatives. Alors, il y a des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de tous élus. Donc, vous pouvez aller voir c'était ce qui était proposé pour les municipales. Donc, c'était plutôt de la vidéo. Et après, pour les autres formations, c'était avec de l'accompagnement, donc des contenus qui sont sur une plateforme qui, aujourd'hui, ne sont pas ouverts parce que nous n'avons pas les moyens financiers de développer une plateforme qui serait suffisamment, on va dire, bien construite pour l'ouvrir à tous et à toutes. Mmh. Mais évidemment, c'est l'objectif de le faire à terme, complètement.
De rendre ça accessible pour être le plus inclusif possible envers tous les publics.
Et donc ça, c'est, comme tu l'as dit, le sujet de la démocratie représentative, qui est notre modèle de société choisi. Et à côté de ça, il y a différentes... La démocratie, c'est en fait très large. Il y a la démocratie participative, délibérative, représentative, ouverte, continue, etc., etc., qui sont des concepts différents. Et donc, tu me posais la question de la démocratie délibérative, c'est ça ? Participative ?
Oui. Participative contre la démocratie classique.
Moi, j'aimerais bien qu'on puisse donner quelques petites définitions. On est dans un système représentatif, donc avec des représentants, représentantes, c'est quand même la base, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que c'est important qu'ils nous représentent ou pas? Et ensuite, il y a plein... Ça, c'est quand même le régime que tu appelles classique, clair. Mmh. Et après, effectivement, il y a plein d'outils complémentaires qui permettent de la rendre plus vivace, et donc que tu puisses définir tous les mots que tu viens d'enchaîner comme une liste à la Prévert.
J'allais le faire, mon cher.
Voilà. On le fait souvent, et puis on se demande ce qui se trouve derrière ces mots, parfois.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je donnerai probablement des éléments de compréhension de ces concepts, mais évidemment... ça n'est pas la définition officielle, et il y a différentes structures, personnes, penseurs, sociologues, qui aussi discutent de ces différents concepts. La démocratie, c'est avant tout quelque chose de vivant, tout simplement, en fait. Donc ça vit, ça évolue, ça change.
Ça évolue avec le peuple.
Ça évolue avec les citoyens et les citoyennes qui s'en emparent, qui innovent, qui racontent aussi des choses, qui projettent des utopies pour ça. Mais donc, pour revenir à la question, le modèle représentatif sous-entend que nous déléguons, en fait, une partie de la prise de décision à des représentants ou des représentantes que nous élisons, puisque c'est le modèle que nous avons choisi, au suffrage direct. Et donc, il y a pour les mairies, pour les conseillers régionaux, pour les conseillers départementaux, pour les députés qui siègent à l'Assemblée, qui sont les personnes qui votent les lois, enfin en tout cas qui préparent les lois et qui votent les lois, et pour le président ou la présidente de la République. Mmh. Pour toutes ces élections, pour toutes ces personnes, nous votons, nous élisons à plusieurs moments du temps électoral, je ne vais pas revenir dessus, et aussi pour les députés européens qui font les lois européennes. C'est ce qu'on appelle le suffrage direct. Mmh. Donc on vote directement pour une personne qui ensuite va nous représenter dans une instance. Mmh. Il y a aussi des personnes qui sont élues par ces élus et qui sont donc élues au suffrage, ce qu'on appelle indirect. Donc c'est des personnes qui nous représentent, mais qui sont choisies par des personnes qu'on a choisies pour nous représenter. Est-ce que tout le monde suit jusque-là ?
Ça me semble très clair.
Voilà. Donc ça, c'est le modèle représentatif. Ça sous-entend que moi, en tant que citoyenne, j'ai un espace de pouvoir, de prise de décision, indirect sur certaines choses, puisque j'élis une personne qui va décider pour moi, par exemple les lois, par exemple le budget de ma commune, par exemple les rénovations de certaines infrastructures, par exemple je sais pas, la piscine, le gymnase, etc., les rues, ok, l'attribution de certains marchés européens ou mondiaux, le fait de prendre des engagements pour le climat, etc. Mmh. J'élis des personnes qui vont décider pour moi. C'est ça le modèle représentatif. Mais en tant que citoyenne, j'ai aussi des espaces de décision, d'exercice de mon pouvoir citoyen direct. Par exemple, le budget participatif, c'est un exemple. On me propose de décider où je veux mettre une partie de l'argent public. Il y a des budgets participatifs qui existent dans certaines villes en France, par exemple à Paris ou à Marseille, qui viennent d'être lancés dans les quartiers nord 14, 15, 16, je crois.
D'accord.
Voilà, donc c'est une nouveauté pour Marseille. Et donc ça, c'est l'exercice d'un pouvoir direct, parce que je vais pouvoir dire, cette partie-là du budget, j'ai envie de l'allouer à tel projet, pour tel quartier, par exemple.
Ouais, c'est vraiment les citoyens et citoyennes qui vont décider de comment l'argent public, le budget de la ville est attribué en fonction de leurs préoccupations, de ce qui les touche directement et de ce qu'ils ont envie de voir évoluer dans tel ou tel sens. Ouais.
Exactement, c'est un outil de participation, on va dire, direct. Voilà. Y a le référendum, par exemple, qui permet aussi de voter oui ou non sur une question qu'on pourrait nous poser et d'autres types d'outils. Je ne sais pas si on veut rentrer dans le détail de différentes choses, mais je vous laisserai potentiellement peut-être en présenter d'autres. Mais voilà un peu pour le modèle représentatif. Et donc, bien sûr, aussi, dans mon quotidien, en fait, je fais des choix directement, de manière démocratique. Si je suis engagée dans une association, je peux aussi avoir un impact politique parce que travailler sur les sujets de lutte contre le gaspillage alimentaire ou d'aide aux devoirs ou de l'éducation, etc., c'est des sujets politiques. Donc j'ai aussi quelque part ma part d'action et de décision politique.
Ouais, par le biais de l'engagement associatif qu'on mène au jour le jour. Ouais, c'est vraiment des combats qu'on incarne au quotidien.
C'est vrai que toutes nos décisions sont politiques. Prendre un café sur une terrasse, c'est bête, mais en réalité, ça veut dire que la terrasse, si elle est dallée, c'est qu'il y a des personnes qui ont mis cette dalle-là. Le café, d'où vient-il ? Qui a assuré la sécurité de la place ? C'est plein de choses qui font une société. Et ce petit choix-là, finalement, vient appuyer ce modèle de société que de dire « je mets mon argent à tel endroit ou ailleurs ». Donc effectivement, c'est quand on prend conscience que chacun de nos actes ont une portée sur ce qui nous entoure, on réalise que même quand on pense pas avoir beaucoup de pouvoir, en réalité, on a plein de petits choix et de petites choses qui peuvent faire la différence à son échelle. Donc ça, je voulais rebondir sur ça. Mmh. Et je sais pas si on a défini la démocratie participative. Ou alors non. Tu comptes y arriver ?
Pas encore, oui, tout à fait. Alors, la démocratie participative, c'est hyper large, parce que c'est juste le fait de dire, en fait, les citoyens participent, mais participent à quoi ? Participent comment ?
Ils prennent part à la démocratie, mais ça peut prendre plusieurs formes.
Donc, par exemple, le budget participatif, comme il s'appelle, est une forme de démocratie participative, mais on pourrait aussi dire que la consultation citoyenne, comme il y a eu sur la plage des Catalans pour savoir comment est-ce qu'on allait rénover, je ne sais pas si vous avez vu les arcades de la plage des Catalans. Il y avait un grand affichage il y a quelques mois qui était posé sur la plage pour proposer aux citoyens et citoyennes de dire ce qu'ils en pensaient. Et c'est pas il y en a dans plein de villes en fait. C'est aussi une forme, la consultation est une manière de participer d'une certaine manière, avec un lien faible à la décision. Parce que je suis consultée, c'est-à-dire qu'on me demande mon avis, mais je ne suis pas en train de décider, c'est-à-dire je ne suis pas associée particulièrement à la décision finale. On me demande quelle couleur je veux peindre les arcades, et à la fin, il y a quelqu'un qui choisit, quoi. Mmh. Et ça, c'est tout le sujet de démocratie ouverte. Mmh. C'est de dire, en fait, une démocratie ouverte, c'est l'idéal, c'est l'utopie, c'est ce qu'on cherche, en fait, à atteindre. C'est une démocratie plus collaborative, plus participative et plus transparente. Sous-entendu, on ouvre l'information pour que les citoyens et les citoyennes puissent savoir de quoi ils retournent, comprendre les processus, se les approprier, etc. Collaborer entre les différents acteurs, que ce soit les élus, les institutions, les associations, les entreprises, les citoyens, etc. Et participer, c'est-à-dire être acteur, quelque part, de tout ça. Voilà.
J'ai une petite question. On vient de donner le nom de deux structures, Tous élus, Démocratie ouverte. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, bien nous préciser quels sont les liens éventuels qui existent entre ces deux structures ? Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Parce que peut-être que nos auditeurs et nos auditrices se posent cette question et se disent c'est quoi les liens ? Ou est-ce que j'avais mal compris ? En fait, la structure a changé de nom ?
Elles n'ont pas changé de nom. Donc, je suis arrivée chez Tous élus en tant que bénévole et donc ensuite j'ai dirigé la structure pendant quelques temps et je suis maintenant membre en fait, hein, tout simplement, voilà. Et donc le lien qu'il existe, et c'est pas un hasard si je suis connectée à ces deux structures, c'est que Démocratie ouverte, qui est une structure, elle, qui est plus âgée entre guillemets que Tous élus, qui existe depuis une dizaine d'années, on a fêté les 10 ans le 15 septembre, okay, cette année, est une structure qui au démarrage, 2016, donc quand même au bout de 6 ans, a lancé le premier incubateur pour favoriser l'innovation démocratique. Mmh. Et Tous élus a été incubé aux côtés de, par exemple, une autre structure qui s'appelle Mieux Voter, qui essaie de développer, qui prône d'autres justement modèles pour les élections que le suffrage uninominal.
Voilà. D'accord.
À deux tours. Et donc, c'est démocratie ouverte, en fait, quelque part, est un peu, en quelque sorte, la mère un peu d'adoption, quoi, de Tous élus, et à accompagner la structure, en fait, à se lancer au démarrage. Et donc, moi, mon rôle au sein de démocratie ouverte, au moment d'arriver chez Tous élus, a été de prendre une place au sein de ce qu'on appelle le cercle d'animation, qui est le conseil d'administration, en fait, de la structure, pour réfléchir et décider un peu de la vision, tout simplement, et puis du positionnement stratégique aussi, des orientations, en fait, tout simplement. Mmh. Et je suis, depuis le mois de juin, élue coprésidente. Voilà.
D'accord.
Donc, mon rôle a un peu changé, c'est intensifié, pas mal.
Félicitations pour ce rôle de coprésidente. J'imagine que ça doit être plein de projets passionnants. Moi, je voulais qu'on revienne sur un des plus gros projets pour lesquels Démocratie ouverte a fait parler d'elle. C'était le sujet de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, est-ce que tu pourrais revenir dessus rapidement ? C'est quand même assez connu, mais je pense que c'est bien de resituer le contexte et aussi nous donner quelques billes sur son fonctionnement et sur la façon dont ça a un peu changé le paysage démocratique, parce qu'il a eu plein de bébés aussi, cette initiative a infusé dans plusieurs territoires. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Yes, c'est ça qui est magique aussi, c'est que quand il y a des belles innovations, en général, elles provoquent après des réactions en chaîne, même si parfois ça prend du temps à se mettre en œuvre. Pour rappeler un peu le contexte, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la Convention citoyenne pour le climat, 2018, par contre, ça, je pense que tout le monde en a entendu parler, Gilets jaunes, grosse crise sociale, revendication sociale, en fait, d'une immense part de la population. Et en fait, concomitant à ça, les marches climat aussi. Donc une partie de la jeunesse et des militants et des personnes tout simplement qui se sentent engagées, touchées par la cause climatique, qui dans ce même temps se mobilisent. Et en fait, démocratie ouverte avec des chercheurs, des militants climat, les gilets jaunes, etc., impulse la création d'une association qui s'appelle Gilets Citoyens et qui coécrit à plusieurs voix une lettre ouverte au président Macron, Monsieur Emmanuel Macron, en disant voilà, la crise des gilets jaunes a fait émerger les problématiques et les sujets qui en fait aujourd'hui animent les Français. On retrouve en fait trois grandes thématiques. Il y avait le sujet de la fiscalité, la justice fiscale, il y avait la démocratie, la participation, etc., et le climat. Donc c'est d'ailleurs à ce moment-là que Démocratie Ouverte redéfinit, et tous élus et un certain nombre d'autres acteurs redéfinit en valeur cœur la justice sociale, la justice environnementale et la démocratie.
D'accord.
En disant ce sont les sujets qui traversent la société aujourd'hui et que demande le peuple. Et donc cette lettre ouverte adressée à M. Macron qui appelle à lancer une convention citoyenne pour le climat et pour pouvoir discuter. Alors à la base, une convention citoyenne globale pour traiter ces trois sujets. Et donc la réponse qui est faite, c'est on va lancer une convention citoyenne pour le climat. Et donc Démocratie Ouverte a été associée au comité en fait, hein, d'organisation et de suivi de tout ça. Comment ça a fonctionné ? Il y a eu en fait un tirage au sort. Parmi la population de 150 personnes, qui ensuite donné une association, les 150, ils se sont structurés en fait après ça. Donc c'est déjà une première émanation de tiens, qu'est-ce que de positif ça a eu.
Ils ont gardé contact.
Voilà, des personnes qui potentiellement n'avaient jamais fait de politique avant, ont fait pour la première fois au travers de cette convention et se sont ensuite structurés en groupe en disant en fait, on a envie de continuer de s'engager autour de ces sujets. Donc c'est déjà un truc super.
C'est formidable.
Ces 150-là, avec une volonté d'avoir une représentation, globalement des Français. Évidemment, c'était des critères, on va dire, un peu globaux, puisque avec 150 personnes, on ne peut pas représenter évidemment les 60 millions de personnes, mais quand même de représentation en termes de tranches d'âge, de catégories socio-professionnelles, de localité et on va dire d'opinions diverses. Et donc ces 150 ont ensuite été par petits groupes et sur un certain nombre de mois amenés à poser les constats, poser les grandes questions, discuter avec des experts, revenir délibérer entre eux et ensuite arriver avec des propositions concrètes qui ont été présentées ensuite au gouvernement et à Monsieur Macron. Et donc on connaît alors pour le coup l'issue de ce processus démocratique inédit en France qui a été de finalement de ne pas retenir un grand nombre de ces propositions qui ont été faites. Et ça a été du coup assez marquant. Il y a eu pas mal de mobilisation, on va dire, citoyenne autour de ça, puisque une impression d'être dépossédé quelque part, un peu de ce pouvoir qu'on nous avait donné.
Et une déception, j'imagine.
Et je profite juste pour faire une petite aparté, puisque l'émission qui de La Forêt des Possibles qui donne la parole aux acteurs et aux actrices, son enjeu, c'est de pouvoir montrer les actions des personnes et de voir comment ça se maille. Et donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, on a déjà enregistré deux émissions sur le sujet de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, vous pourrez retrouver aussi, pour compléter les réflexions de ce soir, une première, c'était sur la BD « À portée de main », qui est devenue un peu une BD de référence au sujet de cette convention, où on avait reçu Lucas Zufik, qui est un des auteurs, en mars dernier, 2023, si ça vous intéresse. Et on a aussi reçu Benoît Bobry, qui était un des 150 citoyens tirés au sort, qui est venu, lui, au mois de mai 2023, et qui nous a présenté le fonctionnement et ensuite les travaux qui avaient été menés dans sa commission. Donc voilà, je vous rends la parole, mais c'est une façon de pouvoir donner des petites apartés si vous voulez creuser ces questions fascinantes de la Convention citoyenne pour le climat.
Oui, et ce qui est génial, du coup, pour voir les choses positives qui sont quand même sorties de là, c'est que déjà, ça crée un précédent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, d'autres ont émergé, des assemblées populaires à Villeurbanne, à Annecy, ici et même à Marseille, l'Assemblée des Futurs.
Exactement. Ouais.
Voilà. Et plein d'autres, en fait, partout en France. Démocratie ouverte, au travers de son labo, accompagne aussi des expérimentations, en fait, hein, sur le territoire, et donc accompagne des communes, voilà, des élus, sur le fait de mettre en place des expériences,
ouais,
comme celle-ci. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième, c'est ça a vraiment généré de l'engagement et de l'implication, en fait, auprès des citoyens. Et donc nous, ça nous fait nous dire, nous, Démocratie Ouverte, et d'autres acteurs, ça nous fait nous dire que, en fait, si on arrivait à mettre en place des conventions citoyennes sur un certain nombre de sujets de société, ça générerait probablement de l'engagement. Et c'est aussi pour ça qu'on défend l'organisation d'états généraux de la démocratie, avec derrière l'envie d'organiser des conventions citoyennes pour réécrire, quoi, les règles quelque part démocratiques avec les citoyens, avec les associations et avec, bien sûr, les élus locaux.
Oui, on voit bien que c'est ce genre d'assemblées citoyennes qui peuvent vraiment engager et se sentir de nouveau en pouvoir. L'empowerment, l'incapacité à s'impliquer dans la vie politique, ça passe par cette mise à disposition du temps de politique, quelque part. En fait, on va te donner un espace où tu vas pouvoir travailler avec d'autres citoyens et citoyennes sur des sujets en particulier, et ensuite formuler des propositions qui seront écoutées par les élus, si, et on pourrait souhaiter appliquer aussi. Et du coup, sur ce sujet-là, ça me fait penser que ce week-end, il y aura le Libé Tour à la Friche Belle de Mai, ici même, et la Forêt des Possibles animera un atelier auprès du Parlement Génération Transition. Donc ce sera une cinquantaine, soixantaine de jeunes qui vont débattre sur les sujets de loisirs, transport et pollution, il me semble.
Et inégalité, oui. Et la pollution étant le chapeau général de toutes ces questions.
Merci pour la clarification. Donc voilà, on peut voir que même dans un contexte d'événements populaires qui est organisé là par le journal Libération, eh bien voilà, on s'empare aussi de ces sujets politiques, de démocratie participative, et on fait des petites expérimentations pour que les jeunes s'emparent de ces modes de fonctionnement. Donc on espère que ça déclenchera quelque chose en eux.
Et c'est génial, et c'est hyper important, parce que quand on voit le contexte de recul démocratique et d'absence, on va dire, d'associations, de moins en moins d'associations, alors des citoyens, mais n'en parlons pas, mais surtout des acteurs de ce qu'on appelle la société civile, donc les associations et puis les corps intermédiaires, syndicats, etc., ou réseaux, en fait, hein, tout simplement, d'associations, c'est une priorité, en fait, de travailler sur ça. Et la démocratie est la mère de toutes les batailles. On ne peut pas voir des changements s'opérer dans la société climatique. On parle de pollution, on parle de droits, de fiscalité, etc. Si les citoyens ne sont pas associés, en fait, aux discussions et aux prises de décision. Donc, sous-entendu, s'il n'y a pas de processus démocratique pour permettre les discussions, les débats et les prises de décision dont nous avons besoin pour faire avancer ces sujets.
Ouais, c'est indispensable de passer par une démocratie collaborative, participative. Ça va être le moment de prendre une petite pause, de respirer. Audrey, est-ce que tu veux nous présenter le titre que tu as choisi pour aujourd'hui ?
Oui, j'ai réfléchi longuement, et je dois dire que ça ne m'a pas laissé sans stresser, car j'ai une très mauvaise mémoire pour les titres. Mais c'est en plus un film dont je t'ai parlé. C'est Let the Sunshine, qui est dans la BO d'un film qui s'appelle R, désolé pour l'anglais, H-A-I-R, qui est une comédie musicale qui, en gros, je trouve, finalement, fait un bon parallèle avec aujourd'hui. C'est une bande de jeunes un peu hippies qui s'engagent, enfin, en tout cas qui rouspètent contre la guerre au Vietnam, et donc se mobilisent. Et il y a beaucoup de chants, beaucoup d'art, beaucoup d'art de rue qui sont utilisés pour, quelque part, opposer ces choses-là. Et elle est pleine d'espoir aussi. C'est un film drôle et beau, et la BO est géniale, la bande originale. Donc je vous incite fortement à le voir.
Merci beaucoup, Audrey Fortassin, sur Radio Galère, 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Et on se donne la parole juste après ça. Hey, where you going?
Short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tears. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I'm a genius, genius. I believe in God. And I believe that God believes in Lord.
Vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles qui est en partenariat avec Écoforum et qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille, sa région et ce soir de toute la France. Nous sommes toujours en direct avec Claire Mailloux et Audrey Fortassin pour parler des enjeux de démocratie participative et de participation citoyenne au processus démocratique. Et dans un premier temps, nous avons donc présenté un grand nombre de questions sur des constats de la société dans laquelle nous vivons. Nous avons discuté sur un certain nombre de points de définition de ce que ça t'est que la démocratie représentative, la démocratie participative. Et dans un second temps, à partir de maintenant, on va vous proposer quelques outils concrets pour pouvoir vous engager, vous citoyens qui pouvez vous poser, et citoyennes qui pouvez vous poser des questions sur ce que vous pouvez faire, vous, à votre place. Et donc, je rends la parole à Claire et Audrey pour que ça puisse continuer.
Oui, alors maintenant pour aborder les pistes d'action, il y a un programme que vous avez mis en place chez Tous Élus qui s'appelle « Pourquoi pas toi ?». Alors au début, quand tu as commencé à parler de ton parcours, je t'ai dit justement « Pourquoi pas toi ?». Est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cette association Tous Élus parce qu'il y avait ce programme qui existait, ou bien est-ce que c'est arrivé en cours de route parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait... Bon,
tout le monde le sait qu'il y a un manque de représentativité au sein des instances, des institutions et des personnes qui incarnent le pouvoir. Ce sont souvent des hommes blancs, cis, plutôt âgés. Marin lève la main. J'ai dit plutôt âgé, t'es plus jeune. Mais voilà, donc il y a ce manque de diversité dans les instances de pouvoir. Est-ce que toi, tu es arrivé justement par ce programme, pourquoi pas toi ? Ou bien ça a été développé parce que tu incarnais justement ce programme ?
Alors, ni l'un ni l'autre. C'est un programme qui a été lancé au démarrage de tous élus. Ça a été vraiment la réponse à la question de, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'abstention ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour repolitiser les jeunes, principalement, pour les faire s'intéresser à la politique et puis essayer de changer un peu les visages, en fait, renouveler, quoi. Tout ça, les institutions, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça a été de dire, sautons sur l'occasion, on est en 2017-2018, en fait... Il y a une échéance, c'est 2020, les municipales, donc les élections locales, municipales, et il y a plus de 36 000, je ne sais plus exactement le chiffre, communes, enfin villes en France, donc il y a un marché. mais il y a aussi des espaces dans lesquels il est, et ça on ne l'a peut-être pas en tête, mais il est hyper difficile de renouveler en fait, parce que c'est des zones rurales, des toutes petites villes, il y a 95% en fait des villes qui sont des villes de moins de 10 000 habitants en France. Donc on a en tête, quand on pense aux villes, on pense aux grandes villes, Marseille, Paris, Nantes, Bordeaux. En fait, la plupart du territoire français, c'est des petites villes. Enfin, des petites villes, des villes de taille moyenne ou petites villes. Donc, il faut avoir ça en tête. Et donc, dans cette optique-là, le premier programme développé par tous élus, c'est ça. C'est pourquoi pas toi, pour les municipales. Donc, je n'étais pas encore là. Ça s'est poursuivi au régional. Et en fait, l'histoire, pourquoi est-ce que ça s'est poursuivi aussi au législatif, ce programme-là, en évoluant, bien sûr, sur les contenus et puis sur le format. Et moi, je suis arrivée un petit peu avant que ça soit lancé. C'était une question à ce moment-là de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réécrit la Constitution avec des assemblées populaires partout en France ? Ou est-ce qu'on continue, pourquoi pas toi, sur les législatives, parce qu'il y a besoin de faire entrer des citoyens qui vont changer la manière de faire de la politique à l'Assemblée. Et ça a été un vote, une discussion et un processus démocratique interne qui a fait qu'en fait, on a choisi de conserver pourquoi pas toi. Et moi, je suis arrivée fin 2020 quand la décision venait d'être prise de poursuivre le programme. Et donc, j'ai participé à la mise en œuvre, en fait, tout simplement de toute la stratégie de communication, de recrutement, d'analyse des candidatures et de déploiement du programme pour les législatives. D'accord. Donc, je suis arrivée à ce moment dans l'assaut.
Et donc, monsieur et madame tout le monde qui souhaitent s'engager en politique, qui souhaitent bénéficier du programme d'accompagnement Pourquoi pas toi, pouvez s'inscrire sur le site internet, sur la plateforme. De quel accompagnement bénéficiait-il ? Est-ce que c'était un entraînement militaire pour élu ?
Alors, ça dépend des élections, du coup, donc c'est assez variable et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a une plateforme qui s'appelle Pourquoi pas toi, vous pouvez la retrouver sur internet. Il faut savoir que, du coup, en 2020, d'autres initiatives ont émergé. L'Académie des futurs leaders, Open Politics, Collège citoyen avant ça aussi existait. Et ça, tout ça, c'est entre autres, c'est des structures qui aussi en fait accompagnent des personnes à se lancer en politique et qui du coup par session régulière, soit tous les 6 mois, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, enfin bref, en fonction des programmes. Donc vous pouvez retrouver aussi de l'accompagnement sur ces structures-là. Et donc tous élus, ça fonctionnait sur un programme, c'était 8 semaines. En distanciel, avec des groupes de co-développement, c'est-à-dire de petits groupes de géographiques qui se retrouvaient une fois par semaine pour discuter, tout simplement. Et puis, il y avait des contenus variables, des experts de la démocratie et de la politique qui venaient parler de sujets particuliers, différentes thématiques qui étaient abordées, du travail, un petit peu. Et c'était à peu près 6 heures par semaine, voilà, d'engagement. Donc, on pouvait le faire, et c'était tout le sujet de notre programme, on pouvait le faire à côté d'un travail, à côté d'études. C'est pas le cas de tous les programmes de formation. Nous, on avait volonté d'avoir vraiment cet axe de sensibilisation, de vraiment s'adresser aux personnes qui aujourd'hui sont exclues de ces espaces-là politiques.
Alors moi, j'ai une petite question là-dessus. Je me mets à la place des auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Je sais pas pour qui ils votent. Ils savent qu'ils sont en train d'écouter La Forêt des Possibles qui tourne autour des enjeux de solidarité et d'environnement. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui votent pour des partis politiques qui ont ces questions-là, mais qui sont pas forcément prioritaires, à droite par exemple. Vous disiez que vous étiez apartisan. Est-ce que vous accompagnez des personnes à se présenter pour des partis de droite et comment est-ce qu'ils se projettent dans ce que vous proposez? Parce que tout à l'heure, quand tu parlais des gilets citoyens, tu parlais de trois thèmes, la justice fiscale, la démocratie et l'environnement. Voilà, je voulais savoir comment c'était perçu par le spectre politique.
Ces trois valeurs-là, je l'ai dit, elles ont été intégrées aussi dans le cœur des valeurs de tous élus, à ce moment-là, donc avant la sélection des législatives. Pourquoi je le précise? Parce qu'en fait, la formation « Pourquoi pas toi ?» a été vraiment ouverte à tous et à toutes. Il y a 3000 personnes qui se sont formées en ligne. Il y en a 200 qui ont été présentées ensuite une candidature sur des listes.
Ok.
Au municipal.
Et combien ont été élus, est-ce que tu sais?
Alors, 82, il me semble.
Ok, voilà. Donc 82 success stories, voilà. Vocation.
Un vice-président à la métropole de Lyon, des personnes qui étaient vraiment primo-candidates, c'est-à-dire qui n'avaient jamais été candidates à des élections. Il y a eu des personnes élues pour le parti du Rassemblement National et des partis de droite, des partis aussi de Monsieur Macron, La République En Marche. Donc, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était vraiment comment on renouvelle avec des critères sociaux. Et puis ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Et ça a quand même questionné beaucoup, beaucoup l'écosystème de ces acteurs. Et on a posé donc ces valeurs. C'était des lignes rouges, c'était des limites. Et donc, ça a nécessairement un petit peu orienté le recrutement. Ça ne veut pas dire qu'on a exclu des personnes ou des partis en particulier. Mais bon, disons que déjà, ça a fait une partie un peu de tri, puisqu'il fallait respecter ces valeurs-là et défendre ces valeurs-là dans un volonté de programme, ou en tout cas de conviction, pour pouvoir faire partie de ce programme. Mais pour information, on a accompagné des personnes... De partis LR, LREM, des partis de gauche, écolo, etc. Et des personnes sans étiquette politique, puisqu'on avait aussi à cœur de permettre à des citoyens et des citoyennes qui voulaient présenter une candidature libre.
Donc là, juste petit point, tout à l'heure tu parlais du Rassemblement National, ça a été avant les questions que vous êtes posées, donc il y a eu des personnes que vous avez accompagnées qui sont Rassemblement... Enfin, à l'époque, j'imagine, c'était le Front.
En fait, on l'a su a posteriori parce que on demandait pas aux gens de quel parti ils étaient avant de rentrer dans le programme. C'était pas ça le truc, quoi. Puis il y avait pas, de toute façon, il y avait pas les moyens de vérifier quoi que ce soit. On a pu vérifier un petit peu plus certaines choses, en tout cas, qu'il y avait une adéquation entre les valeurs et le projet, quoi. Ouais. Voilà, politique. Après ça, mais encore une fois, enfin, on a. Si les personnes avaient envie de nous dire à quel parti elles étaient rattachées, si elles avaient un parti auquel elles pensaient ou si elles n'en avaient pas et qu'elles ne voulaient pas en avoir, elles pouvaient nous le dire. Mais nous sommes effectivement apartisans au sens nous ne sommes pas financés par des partis politiques, nous ne défendons pas de partis politiques en particulier et nous ne faisons pas, nous ne travaillons pas pour des partis. Nous, notre objectif, c'est, enfin en tout cas l'objectif de tous élus, c'est vraiment de donner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent agir au quotidien. Et d'ailleurs, Pourquoi pas toi, en fait, a une émanation qui s'appelle le programme Victoire, qui vise dans des temps non électoraux, c'est-à-dire pas pour présenter un mandat politique, pas en temps électoral, à accompagner les citoyens ou les groupes de citoyens à se structurer, à s'outiller, à apprendre à dialoguer beaucoup mieux aussi avec les collectivités, les élus, pour défendre en fait leurs projets sur le territoire, par exemple, ou se défendre contre des projets qui iraient à l'encontre de leurs intérêts.
D'accord, donc ça veut dire que ce programme Victoire est encore disponible.
Alors lui, pour le coup,
jour,
il est ouvert, voilà. Ça. Parce que du coup, les programmes Pourquoi pas toi sont ouverts qu'en temps d'élection, pour l'instant parce que nous n'avons pas de financement, hein, je le précise, puisque nous n'en avons pas encore parlé. Le financement est quand même le nerf de la guerre sur nos sujets, et quand on parle de sujets politiques, quand bien même non partisans, de projets militants, de projets qui luttent contre l'abstention... On a grand mal à trouver du financement, particulièrement du financement public. Oui. Et donc, le programme Pourquoi pas toi n'est pas aujourd'hui financé, donc on ne peut pas le maintenir en continu, malheureusement. Et on ne peut pas non plus le mettre à disposition en commun, puisqu'on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. Mais peut-être plus tard.
Oui, en espérant qu'il revoie le jour aux prochaines élections, car c'est absolument nécessaire. Et après, le programme Victoire dont tu viens de nous parler est quand même une piste d'action concrète à ce jour pour se mobiliser en tant que citoyen, citoyenne, à s'impliquer dans la vie politique.
Et je précise que d'autres structures, citoyens pour la transition... les fréquences communes, actions communes et le programme de Terre de lutte, Enfin voilà, il y a Alliance Citoyenne, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui organisez-vous, merci, ouais, qui est à Marseille.
Exactement.
Qui fait aussi énormément d'actions dans ce sens et qui est d'ailleurs beaucoup plus mature aussi que le programme que Tous Élus a lancé, puisqu'il est plus ancien, il me semble. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup d'acteurs en fait qui permettent de se mobiliser, de se former, de s'outiller au quotidien.
Ça fait tout plein d'invités potentiels pour de futures émissions. Et une autre notion que je voulais aborder avec toi, que j'ai découvert en préparant cette émission, c'était la notion de civic washing. Voilà, on connaît le greenwashing, éco-blanchiment en bon français, qui consiste à utiliser des enjeux climatiques pour un peu verdir son image, mais ça existe aussi avec des fins politiques, c'est-à-dire instrumentaliser les outils de démocratie participative pour en faire du blanchiment politique. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi de l'outil qui a été mis en place par Démocratie Ouverte pour lutter contre ce phénomène ?
Oui, donc le civic washing, comme on l'a dit, alors je sais pas, essayer de se cacher derrière des concepts démocratiques, ça veut dire concrètement, en fait, ne pas avoir ses actes en adéquation avec ses valeurs. Donc, par exemple, un politique qui dirait moi, je suis à fond sur la consultation citoyenne, j'ai envie que les citoyens participent, qui utiliserait, une plateforme pour récupérer des idées, quoi, et qui derrière n'apporterait aucune transparence sur la manière dont ces idées sont traitées, n'expliquerait pas ou ne donnerait pas non plus de transparence sur pourquoi est-ce qu'une idée a été rejetée plutôt qu'une autre, voire ne prendrait absolument pas en considération dans la prise de décision finale, par exemple, les propositions à la Convention citoyenne pour le climat. Alors, j'ai pas envie de dire que c'était du civic washing, mais bon, ça a eu l'effet, en tout cas pour certaines personnes, que ça en était un petit peu. Ouais. Voilà, pour le côté pas de lien finalement à la décision derrière. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et donc, un outil qui existe aujourd'hui, qui a été développé, alors je ne sais pas si c'est pour lutter contre ça, mais en tout cas, c'est pour essayer de donner aux citoyens, et d'ailleurs aux collectivités, aux élus d'un territoire, la possibilité de se poser la question l'indice démocratique de sa commune. Sous-entendu, à quel point ma commune, ma ville... en fait, respecte les principes démocratiques et donc il y a une évaluation qui peut être menée avec différents acteurs. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir les citoyens, les élus et d'autres structures qui participent à cette évaluation et à la fin, du coup, de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour améliorer tout ça.
D'accord, donc si je comprends bien, ça va être l'association qui va se rendre sur un territoire, par exemple une commune, et qui va aller auditer les outils en interne. Comment...
Concrètement, merci pour la question. Donc ça s'appelle le démomètre. Et donc le démomètre, c'est soit les citoyens qui peuvent le saisir comme un outil en disant en fait nous on demande une évaluation du territoire, soit c'est les élus en fait qui peuvent s'en saisir et dire moi j'ai envie d'évaluer, de voir un petit peu... réellement, quel est l'impact, quel est le résultat des pratiques qu'on a aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez retrouver les informations sur le site de démocratieouverte.org. On peut, en tant que démocratie ouverte, participer à l'accompagnement de ces démarches-là, qui peuvent aussi être menées dans un format un petit peu plus dégradé par les citoyens et la collectivité par elle-même. Évidemment, si on veut mener une vraie étude en profondeur et puis ensuite travailler vraiment sur potentiellement des recommandations, des pistes d'action concrètes à mettre en place, c'est recommandé d'être accompagné parce que ça permet de...
d'avoir, sinon, on tombe dans le civic washing, justement.
ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir quelque part des personnes qui sont habituées et des experts de ces sujets pour pouvoir confronter et puis s'assurer que le processus en fait est mené de la bonne manière avec la bonne méthode.
Et est-ce que tu aurais des exemples de villes qui ont fait auditer, évaluer leur démocratie, leur fonctionnement par cet outil?
Je les ai plus en tête, mais il faut savoir que c'est un outil qui est quand même qui est un peu nouveau dans le sens où on a mis beaucoup de temps à le construire. C'est un énorme morceau en fait et qui aujourd'hui va être déployé. On a un partenariat pour le déployer aussi à l'international et dans d'autres pays européens. Donc à suivre, mais ça vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site.
Et pour clôturer cette émission, j'aimerais bien qu'on aborde un dernier outil qui doit être assez connu de nos auditeurs et auditrices, puisque c'est un format qui se décline à l'infini. J'ai appris qu'il existait aussi une fresque de la démocratie. Encore une fresque.
C'est ça, encore une fresque. Pour la petite histoire, c'est un sujet qui a traversé plusieurs organisations et puis c'était un gros morceau et puis finalement c'est Démocratie Ouverte qui récupère et bien sûr avec la participation de centaines de personnes qui ont contribué à ça. Et donc oui, il existe une fresque de la démocratie et ça c'est assez chouette parce que ça permet de s'approprier un peu comme les fresques du climat ou autres. On peut se faire former en fait en tant que citoyen à l'utilisation de ces outils et ensuite l'animer. D'abord le vivre, on peut aussi participer à une animation et puis ensuite l'animer soi-même. C'est un bon moyen de comprendre quels sont les espaces de pouvoir, les liens que l'on a avec ça et aussi comprendre où sont potentiellement un petit peu les nœuds sur lesquels on peut agir en fonction du problème qu'on a envie de traiter. Quoi. Mm-hmm. Voilà, d'un point de vue démocratique, je ne vais pas en dire plus, je vous laisserai découvrir cet super outil.
Ouais, un formidable outil de sensibilisation. De vulgarisation aussi, qui permet de comprendre les différentes instances. Et si c'est organisé à Marseille, n'hésite pas à me tenir au courant car je suis
on
fanate
a organisé, on a testé la fresque il y a... je crois un an ou un peu plus d'un an. Elle a été testée à Marseille.
Très bien. Bon, en espérant en accueillir d'autres sur le territoire. Eh bien, je pense que c'est le moment de clôturer cet échange. Merci beaucoup, Audrey, pour ta venue, d'avoir répondu à mon invitation déjà.
Merci
et d'avoir
vous.
Parlé de tous ces sujets qui étaient passionnants. Vraiment merci. Et je rends l'antenne.
Merci beaucoup Claire et effectivement pour celles et ceux qui nous écoutent, comme vous le savez, la Forêt des Possibles vous invite à trouver votre juste place dans cette société et il me semble que ce soir on a proposé plein d'outils grâce à toi Audrey dont vous pouvez vous saisir pour trouver cette place et notamment dans les processus démocratiques, donc un grand merci. Effectivement nous rendons l'antenne et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le Talus et ça sera toi Claire qui en fera la présentation.
Exactement, en autonomie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.